deux mots de présentation, donc je vais céder la parole à Myriam Maraj-Gouraud, qui a été, qui est toujours l'un des fers de lance de nos activités, webmaster maintenant du site Curiosidas, et qui a eu le bonheur d'aller évangéliser l'Université de Brest, et donc est désormais maître de conférence à l'Université de Brest, où j'espère qu'elle va porter la bonne parole des cabines Curiosité. Voilà, et donc elle nous parle ce matin des voyages de Balthazar de Monconis, des cabinets de curiosité à l'épreuve du scepticisme.
Merci. Ça va, on m'entend ? Oui, ça va. Non, je vais le tenir. Donc, très tôt, les visites de cabinets de curiosité pratiquées par les amateurs faisant le tour de l'Europe, on l'a dit déjà, ont été conçues comme faisant partie intégrante des voyages, et ponctuant, comme autant d'étapes attendues et saillantes, le fil du parcours d'une ville à l'autre. Ainsi, les visites de cabinets de curiosité privés, mais aussi de reliques dans les églises ou de collections civiles publiques appartenant à une ville, sont construites dans le récit de voyage, dès les écrits de Thomas Plater, dont on a parlé tout à l'heure, comme des récits d'expériences à la fois uniques et plurielles, où sont recherchés à la fois l'émerveillement singulier, l'inédit, et à la fois le retour du même, puisque les attentes sont fortes et déjà bien marquées en matière d'objets convenus pour ce genre de lieu. Restera donc à chaque voyageur, restera à comparer les tailles, les couleurs, les conditions de conservation et de visite des lieux. Ainsi se crée dans tout récit de visite un balancement entre le retour du même et la volonté de classer tout de même, en les hiérarchisant, les endroits visités. Rien n'est l'équivalent d'autre chose, mais tout se rejoint néanmoins. Il faut jouer avec ce paradoxe et voir si, au bout du compte, on est toujours surpris par ce qu'on aura pourtant vu partout. Balthazar de Monconis est l'un de ces amateurs de curiosité qui ne perd pas une occasion de voyager. Il faut tout d'abord le présenter. Avec son frère Gaspard, ils sont fils du lieutenant général criminel et prévôt des marchands de Lyon, fonctions qu'ils occuperont à leur tour successivement. Gaspard, son frère aîné, monte à Lyon un cabinet qui, je cite l'avertissement du volume de Balthazar de Monconis, qui fait l'admiration des étrangers et passe pour un des plus beaux de l'Europe. Il s'est acquis parmi les savants l'estime d'être un des hommes de France qui se connaissait le mieux en médailles, monnaies, peintures, camailleux, inscriptions, pierres, insectes et autres raretés qu'il recherchait curieusement dans le trésor de la nature ou dans celui de l'Antiquité. Quant à Balthazar, son frère, après des études au Collège des Jésuites de Lyon et à l'Université de Salamanque, il devient conseiller à Lyon, puis saisit les occasions qui lui sont données d'accompagner le duc de Luynes pour des négociations à Rome, après quoi le duc de Chevreuse, qui désire se rendre en Angleterre et en Hollande, lui propose de vouloir être de la partie, je cite, « sachant bien que la compagnie d'hommes de cette force était, au dire d'un ancien, le plus agréable viatique qui le put défrayer dans le voyage. » Aussi, pendant que son frère amasse, Balthazar voyage-t-il inlassablement pour, selon les dires de son fils, ne rien refuser à la curiosité. En France, au Portugal, en Italie par trois fois, aux Pays-Bas, au Levant, et on entend par là la Syrie, l'Égypte, les lieux saints, Constantinople, mais également en Angleterre, en Allemagne, en Espagne. Il consigne quasiment au jour le jour des notes de voyage, tous les soirs arrivant à l'hôtellerie, dit-il, entre 1628 et 1664. Ce sont ces notes qu'il n'avait pas fait à dessein d'être publiées que son fils décide de publier à titre posthume en 1665, en trois volumes, sans en retrancher, je cite, « mille inutilités » et changer un journal tumultuaire en une juste et élégante relation. Donc le journal est censé garder sa forme initiale. Le titre qui est donc choisi, et celui qui a été choisi par son fils, est celui-ci, « Journal des voyages », il reprend le mot « journal », « Journal des voyages de Monsieur de Monconis, conseiller du roi en ses conseils d'État et privés, et lieutenant criminel au siège présidial de Lyon, où les savants trouveront un nombre infini de nouveautés en machines de mathématiques, expériences physiques, raisonnements de la belle philosophie, curiosités de chimie et conversations des illustres de ce siècle. Outre la description de divers animaux et plantes rares, plusieurs secrets inconnus pour le plaisir et la santé, les ouvrages des peintres fameux, les coutumes et mœurs des nations, et ce qu'il y a de plus digne de la connaissance d'un honnête homme dans les trois parties du monde. Voici un programme ambitieux, mais juste, parce qu'en réalité, on trouve absolument tout cela dans le journal des voyages de Monconis. Alors, le fils donc, qui publie ce journal s'excuse du caractère ambitieux du titre et à la fois le justifie en rappelant que, c'est dans l'avertissement toujours, que c'est un amas d'une infinité de choses rares et recherchées et que c'est là le voyage d'un philosophe. Alors, ce Balthazar de Monconis a fait l'objet de quelques études, mais assez peu nombreuses. Je me propose de préparer l'édition d'une anthologie des passages touchant la curiosité, parce que je pense que ces passages le méritent amplement. Alors, ce que je voudrais aujourd'hui interroger dans cette écriture, c'est me demander ce que devient sous la plume d'un esprit aussi éclairé, féru donc de physique, de mathématiques et de toutes ces sciences de la nature, qui connaît aussi les plus grands savants de l'époque, qui pratique lui-même l'observation de la Lune avec des lunettes de la plus haute qualité et du dernier cri, qui réfléchit avec Gassendi, qui rencontre des Galiléens, qui rencontre les princes d'Europe les plus éclairés dans les plus grandes académies, qui discute sur le vide, sur la chute des corps, sur la mécanique des horloges, sur le surnaturel, les remèdes, etc. Ce que devient donc l'émerveillement et le récit de visite de cabinet de curiosité quand l'œil est aussi exigeant et averti. En somme, que deviennent les cabinets de curiosité sous l'œil d'un sceptique ou comment peut-on être curieux et sceptique à la fois ? Alors tout d'abord, l'œil averti sait saisir les éléments importants comme les plus accessoires. Au cours de ce voyage, il ne néglige jamais d'indiquer toutes sortes de détails pratiques, tenant aux moyens de locomotion empruntés, au prix payé, à l'accueil dans les différentes auberges, qui sont nommées toutes, montrant ainsi une approche pragmatique. Et il va, chemin faisant, nous parler, par exemple, des lits si méchants qu'on aima mieux dormir vêtu que de s'y mettre dedans, de quantité de mouches, de la forme des bretzels, de ces endroits où les asperges sont fort amères, etc., etc. Note de voyage à la façon d'un Montaigne, privilégiant une expérience sensible, mais qui montre que l'homme sait regarder et a un faible pour le parler vrai. Et même s'il ne pensait pas les publier, ces notes, on ne peut manquer de considérer qu'un tel réflexe d'écriture s'inscrit dans le respect de l'exercice bien assimilé de la relation de voyage méthodique, telle que la théorise Ramu, Swinger et Juste Lips au XVIe siècle. Un tel récit, destiné à communiquer des informations claires, fiables et utilisables, présente des éléments comme une énumération des lieux et des endroits qui permettront au lecteur potentiel de s'y retrouver. Les curiosités urbaines, bien sûr, sont mentionnées, fortifications, édifices de tous ordres, les églises que l'on visite pratiquement toutes, l'architecture, les espaces privés, enfin, sont inventoriés. Monconis guide le regard du lecteur en prélevant des éléments significatifs. Il en ira de même des visites de cabinets de curiosité, où le voyageur présente des listes au pluriel de « il y a des coquilles, des monnaies, des agates, etc. » qui correspondent en général à un sommaire des principales curiosités exposées. Puis, généralement, il extrait un ou deux spécimens jugés plus inattendus pour en proposer une description approfondie. Rappelons tout de même que l'auteur, qui a des relations, ne visite pas à l'aventure, et même le plus souvent ne visite pas tout un cabinet, mais sans doute se fait montrer quelques-unes des pièces les plus remarquables. Ce sont évidemment toujours des visites guidées, Ces visites sont des prélèvements déjà, et parmi lesquels encore, il choisit d'en évoquer une ou deux curiosités en particulier. D'en retenir une, au sens mémoriel du terme, c'est-à-dire déterminer un élément mémorable, matériel aussi peut-être, parce que comme Plater, comme d'autres, il se fait aussi donner ou il achète des objets, chemin faisant, lorsqu'il le peut. Il opère ainsi une collecte parmi les collections et prélève uniquement ce qui, à son sens, mérite un développement, mérite que le récit de voyage s'interrompe le temps d'une description, mérite d'être montré, en somme, dans son ouvrage à lui, créant ainsi sa collection, en quelque sorte, exigeante et difficile, et qui ne s'en laisse pas compter. Alors, l'exemple, je ne prendrai pas mille exemples, nous n'avons pas le temps, mais je prendrai simplement un exemple ici, celui du cabinet, je ne vous ai pas montré, le frontispice gravé qui montre l'auteur en train d'écrire le soir. Et parmi des curiosités, c'est un beau frontispice qui fait partie d'une seconde édition en fait, de 1695. La première édition n'était pas apparue avec cette gravure. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit à la fois des curiosités à l'arrière-plan, enfin tout autour de lui, à vrai dire. On voit des paysages aussi, cette fois à l'arrière-plan, et puis d'autres personnages qui sont placés derrière et qui montrent différentes curiosités, figurant sans doute ainsi les conditions d'une visite. Alors, je voulais donc parler de l'exemple du cabinet de Vérel à Sainte que visite Monconis. Alors, je comparerai simplement la façon dont, dans le catalogue, est décrit le rémora, très rapidement. Rémora, sive echineis piscis rarissimus. Donc, Vérel, 1635, publie son cabinet et décrit ainsi son rémora, comme un poisson donc echineis, mais rarissimus. Et voici le rapport de Monconis. L'après-dîner, je vis le cabinet de M. Véret, apothicaire, où il y a des fruits des Indes, des pétrifications, des coquilles, des animaux et des médailles. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on commence par une liste au pluriel, qui indique les grands domaines dans lesquels le cabinet est spécialisé. Il y a un poisson qu'il dit être le rémor, qui est de la longueur de la main, la tête de la grosseur d'une grosse olive, et va toujours diminuant jusqu'à la queue. Il a comme trois écailles longues qui forment la tête. Le dessous de sa gorge est ondé et creusé comme celle d'un chien. Alors, chez Monconis, il y a à la fois infiniment moins de choses qu'il n'y en a réellement dans le cabinet, puisqu'il commence par un sommaire. La profusion est réduite à des pluriels généralisant en catégories qui empêchent de savoir ce qui s'y cache vraiment. Mais il y a aussi infiniment plus que dans le catalogue, puisqu'avec la description de cet objet, on voit bien qu'on va bien au-delà de la dénomination sommaire qui était donnée par Vérel. En effet, Monconis pratique l'art de la description avec un œil exercé, à qui aucun détail ne semble pouvoir échapper et qui commence par « je vis hein, ». Il y a un poisson. Il commence par dire « je vis » et ensuite « il y a ». D'autre part, cette description est nettement séparée de ce qu'il peut rapporter, de ce qu'il a entendu. Alors j'ai mis en italique « qu'il dit être », ce n'est pas en italique hein, dans le texte original évidemment, mais je le souligne parce que ces paroles rapportées, on le voit, ne sont pas intégrées au discours de l'auteur et en restant superposées, ne sont pas prises en charge par ce dernier. Elle reste à mettre au seul crédit de leur locuteur, le propriétaire, le collectionneur, et se pose comme une parole qu'il faudrait pouvoir vérifier. Il ne dit pas « j'ai vu le rémor ». Il dit « il y a un poisson qu'il dit être le rémor ». Il y a une grande différence dans cette formulation. Monconis fait en fait systématiquement la différence entre les remarques qui sont les siennes, ses descriptions à lui, et les propos des collectionneurs énoncés lors de la visite. Mais lorsqu'il décrit, c'est avec une minutie extrême. Alors j'ai envie de vous lire un passage que je n'ai pas mis sur le diaporama, qui décrit un cabinet de drogue Et vous allez voir à quel point donc la description est précise. C'est le cabinet de Monsieur Lefebvre. Il dit « Je vis son laboratoire et son cabinet de drogue, qui avait été celui de la femme de Cromwell, dans lequel il y a plus de 80 tiroirs. Entre autres, sous les colonnes, qui de chaque côté forment une jolie architecture, il y en a 42, lesquels on ne voit qu'ayant tiré en avant ces colonnes, comme on ferait des tiroirs, puis les retournant sur un pivot qui les soutient et les joignant contre le cabinet, elles donnent lieu de tirer ces petites layettes qu'elles cachaient. Dans le milieu du cabinet, à l'endroit où l'on met ordinairement une perspective, il y avait fait faire 4 degrés en demi-rond qui formaient une espèce d'amphithéâtre, sur les marches duquel il mettait les boîtes des drogues les plus précieuses, lesquelles boîtes étaient d'argent et la plupart dorées, les unes de vermeil, les autres d'une manière particulière par un or fort subtilement calciné qu'on applique avec le pouce sans se servir d'amalgamation de mercure. Le roi en a doré lui-même une. Cette dorure n'est pas si belle que l'autre, elle est mate et ressemble presque au cuivre. Il me dit pourtant que par l'usage, elle devenait plus belle et qu'elle durait plus que l'autre. Il me dit pourtant, hein, on a vraiment une visite avec les propos du collectionneur. Ces degrés en amphithéâtre se tirent encore, comme d'autres tiroirs, par un petit rebord qu'il y a tout le long de chacun. De là, etc. Et il continue. Hein. Donc on voit bien par la description du mécanisme, la rigueur et la méthode quasi scientifique de l'écriture descriptive. La visite dans ce cabinet illustre ainsi un trait essentiel de l'écriture, régi par un esprit méthodique, et en même temps, elle a le don de mettre en valeur la singularité de l'objet en question. Elle est véritablement construite avec des objectifs précis qui sont aussi bien au service de la promotion de la curiosité que de celle de l'auteur qui écrit et de sa méthode. Cette minutie devient quasiment un protocole d'écriture, la marque d'un regard non seulement exercé, mais acéré. Alors, la différence entre « je vis » et « il me dit », entre un regard qui prélève les objets mémorables et les décrit, et puis un esprit qui se contente de prudemment restituer les noms donnés, les propos des collectionneurs, les recettes et les secrets, la séparation est néanmoins bien distincte. Monconis cite les collectionneurs, mais s'abstient de juger, ce qui est déjà, d'une certaine façon, une manière de suspendre son jugement. Il observe, il écoute, et ce n'est pas seulement ici faire preuve d'objectivité, c'est aussi poser une expérience de visite comme une question potentielle, d'une manière même infime et implicite, d'exercer le doute ou de l'ôter par l'extrême précision d'une description. À partir d'un tel modèle d'écriture, il peut s'engager davantage en tant que sujet lorsqu'il ajoute des remarques et construit son discours dans une posture critique. L'observation elle-même peut être critique. Ainsi, on peut comparer son récit de la visite aux reliques de l'abbaye Saint-Victor de Marseille avec celui de Zinzerling, dont on a parlé tout à l'heure. Je crois que j'ai mis le texte, voilà. Alors, Jodocus Sincerus dit ceci. On conserve dans l'église de Saint-Victor une curiosité précieuse, la tête de Saint-Victor, faite d'argent doré et pesant 600 livres. De chaque côté sont des angles de même métal. On voit dans cet édifice la tête de Saint-Cassian, fondateur de l'abbaye de Saint-Victor, une côte de Lazare, la barbe de Saint-Paul, la petite boîte de laquelle Marie-Madeleine tira le parfum dont elle se servit pour oindre les pieds du Sauveur, et d'autres reliques encore. Que dit Monconis, qui passe au même endroit? Je me suis trompée, hein, c'est pas 1546, la date en bas c'est 1646, pardon, c'est mon habitude de 16e de mettre toujours des 1500 partout. Donc, que dit-il? Nous passâmes à l'abbaye de Saint-Victor où nous vîmes les reliques, entre lesquelles on montre une partie de la barbe de Saint-Paul, qu'on dit être dans une petite figure d'argent du dit saint, la boîte de la Madeleine, qui est aussi enfermé dans une espèce de corporal, et l'on ne voit que peu au travers de la découpure de l'ouvrage. Ici, le doute porte sur « nous vîmes ». Et le texte dit, non pas qu'on ne voit rien, mais du moins qu'on ne voit pas très bien ce qui est annoncé. Il ne dit pas « la petite boîte de laquelle Marie-Madeleine tira le parfum dont elle se servit », etc., comme son prédécesseur. Il dit... la boîte de la Madeleine, qui est aussi enfermée dans une espèce de corporal, et l'on ne voit que peu au travers de la découpure de l'ouvrage. C'est souvent le cas dans ces rapports de voyage, où ce qui frappe le regard, son regard, c'est qu'il n'y a rien à voir, ou très peu à voir, et ce type de remarque est assez fréquent, et même pour des lieux très très célèbres, alors celui-ci l'est hein, particulièrement, mais d'autres aussi, comme le cabinet d'anatomie d'Oxford, qui est quand même très connu à l'époque et que l'on visite, il est ainsi traité par Monconis. Il y a une salle où l'on fait des dissections, dans laquelle il y a plusieurs animaux, poissons, oiseaux et autres choses assez curieuses, mais il n'y avait rien que je n'eusse vu en mille lieux. De même, un regard semblablement sévère est porté sur le jardin des simples du même d'Oxford, toujours, que Monconis trouve petit et assez mal tenu, et dont il dit « Je n'y vis rien digne de remarque qu'un abrotanon unguentarium qui sent extraordinairement longuant. » Parlant des armes de la cavalerie de la Tour de Londres, il regrette leur présentation, dit-il, en confusion, qui fait qu'on ne les saurait compter. Il aimerait pouvoir toutes les compter et pouvoir estimer à combien de cavaliers combien on pourrait armer de cavaliers avec tout cela, mais il n'y arrive pas. Et de conclure, je n'y vis rien qui me satisfie, ni pour la quantité, ni pour l'ordre, ni pour la beauté du lieu, ni des armes. Cette sévérité est la marque d'un regard extrêmement exigeant, connaissant beaucoup, donc attendant beaucoup, et qui ne se prive pas dès lors de signaler une déception avec beaucoup de franchise. Déjà fort critique à l'égard de l'Angleterre, il n'a pas de mots assez durs pour Mayence ou pour d'autres villes d'Allemagne dont la médiocrité le frappe particulièrement. Il dit par exemple pour Mayence, « Je fus me promener par la ville où je ne remarquais autre chose, sinon qu'il n'y avait rien de remarquable. » Mais il le dit à Ulm, de la même manière, il se déplace chez un horlogeur fort célèbre où je ne vis pourtant rien de curieux. Le regard scrupuleux autorise donc, vous le voyez, une liberté de ton. C'est un rationalisme systématique qui met à l'épreuve ce qu'il voit et aussi les vérités qu'on lui conte. Il les met à l'épreuve en particulier par le biais de l'expérience qu'il ne se prive pas de faire in situ. Par exemple, au Caire, il cherchera à faire l'essai d'une salamandre qu'on lui a donnée et constatera que celle-ci craint le feu et les brûlures. Elle se brûle. Sa curiosité, dès lors, s'exerce surtout des lunettes astronomiques aux bizarreries de la nature, telles la dent d'homme marin, dont on lui a garanti qu'elle était un remède souverain contre les morsures de serpents, et dont il essaye tout de suite les vertus, en saupoudrant 55 grains de la raclure de la dent d'homme marin sur un petit chien qu'il a fait piquer par une vipère pour la circonstance et qui meurt lamentablement 3 heures après. De la même manière, à Constantinople, en visite chez un Turc qui lui a offert de la momie de Perse, qui lui a vendu assez cher de la momie de Perse, disait le marchand, à remettre les os cassés, puisque la momie est censée guérir de toutes les fractures, eh bien, il s'en va casser la jambe à une poule, à laquelle il donne de la momie de Perse, mais au bout de 24 heures, elle était si malade qu'elle ne pouvait bouger et avait le pied extrêmement enflé. Bien, donc les idées reçues, qui hantent les discours des marchands comme des collectionneurs, et qui alimentent, bien entendu, la légende des curiosités, sont ainsi soumis à une forme de rationalisme sceptique propre aux savants dont il est proche et qui fondent leur connaissance sur l'expérience plus que sur les colportages ou des oui-dire. Et quand de l'observation critique on passe à l'expérimentation, cela engage parfois une discussion critique dont Monconis est très curieux et très friand, autant que des résultats de l'expérience ou de la contemplation d'objets nouveaux. En somme, les objets ne lui plaisent jamais tant que les discours que l'on tient à leur sujet. Et en visite, par exemple, au château du duc d'Orléans à Blois, il ne ménage pas ses éloges devant le jardin, il dit son admirable jardin de simples qui passe les plus beaux qui soient en Europe, ou devant la galerie dont il dit qu'elle est très belle et longue et qu'il y a également 2 citernes d'une architecture admirable. Et pourtant, il ajoute « Mais ces beautés inanimées ne sont point comparables à un des premiers géomètres et des plus savants hommes de France, monsieur le conseiller de Beaune, avec lequel je demeurais les deux dernières heures de cette journée. Et en la compagnie de ce savant, il expérimente un télescope que le savant avait fait faire spécialement pour lui dans son laboratoire, qu'il va lui prêter, etc. Et pour cela va rester un jour de plus, beaucoup plus intéressant que les objets inanimés. Donc, les discussions, les controverses savantes qu'il a également avec Kircher à Rome, avec des hommes de science dans des cénacles d'académie, dans le cénacle, l'académie de Montmort par exemple, animent le récit en l'abreuvant de connaissances, de choses apprises au fil des rencontres. Car ce qui mérite le nom de curiosité, c'est ce qui doit non seulement être montré, objet donc, mais aussi être commenté et confronté. En fait, il s'agit de regarder, d'écouter et de juger. Et l'attitude privilégiée par ce voyageur est celle d'une visite active, préparée, informée, effectuée dans un esprit de recherche qui permettra de distinguer l'opinion de la raison et de vaincre les préjugés. Ainsi, les gens qui sont reconnus comme des curieux et qu'on lui a vantés comme tels méritent une visite, peut-être plus eux que leur cabinet. Et alors, le regard sera forcément impitoyable, on le comprend bien. C'est même l'un des enjeux principaux de ses voyages. Il le dit au détour d'une phrase, mais dès le début du premier volume, où le projet est formé, alors qu'il est à Tours, et il va voir une femme qu'on lui avait fort vantée pour savoir des choses extraordinaires et surnaturelles. Avant de dire qu'elle ne lui a rien raconté d'extraordinaire, voici ce qu'il dit. « Comme j'avais résolu pendant mon voyage de ne point laisser passer d'occasion de m'éclaircir de la fausseté de tous ces contes et de la vanité de toutes ces sciences, je commençais par elle, le catalogue des ignorants que j'ai trouvé en ces matières. Et parce qu'elle ne me dit rien de plaisant ni de bon, je ne particulariserai pas la chose davantage. » Ainsi, le plaisir de la discussion tient aussi dans ce qu'elle permettra d'élaborer un catalogue des ignorants. Plume acérée, donc, pour une attitude qui n'est pas de dénigrement, hein, comprenons-le, mais qui marque l'exercice d'une libre pensée par la liberté de parole franche, directe, qui passe la visite des cabinets au crible de son jugement. C'est l'espace intime d'un écrit non destiné à être publié qui est aussi pour beaucoup, sans doute. Toutes choses, objets, êtres et discours méritent que s'exerce la curiosité, mais il s'agit de faire montre d'une curiosité avertie dont la plus haute valeur est l'indépendance d'esprit. Tout se passe comme si l'on devait se défendre d'une sotte ou vaine curiosité qui s'émerveillerait de tout et applaudirait avec les autres. Il ne s'agit pas d'être la dupe des collectionneurs ou des causeurs. Le curieux Monconis définit ses propres raisons de s'émerveiller et ses propres critères. À la différence des hommes du XVIe siècle qui, aussi bien dans la présence du passé que dans la présence du lointain, trouvent partout à s'émerveiller, ici le chemin est presque inverse. Il s'agit d'exprimer plus souvent au cours du voyage le dédain ou la déception pour mieux mettre en valeur l'exception. L'expression du dédain entre dans cette écriture que l'on peut dire contrastée et y tient une importance considérable. Il permet de mentionner, et cela importe beaucoup aussi évidemment, ce qu'il ne retient pas. Il y a des visites et des revues de ce que l'on ne garde pas, hein, en quelque sorte des visites en négatif, si on veut, visites pour dire qu'il ne faut pas visiter, parce que c'est déjà vu, parce que c'est banal, parce que c'est une supercherie, parce que ça ne correspond pas à ce qui était marqué dans le catalogue, etc. etc. Il y a mille raisons, hein, pour ne pas avoir de, justement de raison d'aller visiter tel ou tel endroit. Et cela crée une échelle personnelle du saillant et du banal et condamne comme non singulière, non rare, des choses que d'autres aimeraient faire passer pour des singularités ou des raretés. Et ainsi se crée une échelle personnelle et variable de la curiosité. Le cabinet, qui aura donc trouvé grâce aux yeux d'un esprit aussi sévère, aussi exigeant, aussi rigoureux, a d'autant plus d'intérêt et reçoit un surcroît de prestige, parce que tous les autres auraient été balayés. Et peut-être le jugement admiratif ne peut-il s'exercer légitimement qu'à ce prix, c'est-à-dire comme le fruit d'un regard informé, sévère, toujours attentif et sans concession pour la supercherie. Cependant, à choisir ces motifs de curiosité, le récit de voyage peut prendre un tour qui ne manque pas de piquant. Fixant lui-même donc les degrés de l'émerveillement, il est frappant de constater qu'il s'intéresse a priori à tout. Et au fond, ce qu'il faut comprendre sans doute, c'est que la curiosité pour lui ne commence ni ne s'arrête à des objets prescrits. La curiosité n'est pas acquise d'avance et elle peut dès lors aussi surprendre, hein, se trouver là où on n'imaginerait pas qu'elle ait pu se trouver. J'en veux pour preuve cet exemple d'une visite à Saint James où la duchesse d'York, qui l'accueille avec le duc d'York, est traitée absolument comme une curiosité, à l'instar de l'oiseau des Indes qui sera décrit juste après elle. Ce n'est pas sans humour qu'il traite avec le même intérêt la beauté de l'oiseau des Indes et la laideur de la duchesse d'York comme étant des choses également curieuses. La succession immédiate dans le récit de sa visite à Saint James de la duchesse d'York et d'un calao rhinocéros ne peut manquer de faire sourire par la répétition des procédés où d'un côté on lit fort laide et de l'autre on lit fort beau. Et la juxtaposition de ce qui semble être deux curiosités traitées à égalité, l'une du côté du beau et l'autre du côté du laid. La duchesse, finalement, anglaise, provoque autant d'intérêt que le calao. Elle est traitée comme un objet de curiosité. Irrévérence qui dit beaucoup d'une curiosité portée sur tout objet digne de la provoquer. La question du voir et de ses intentions est capitale. Alors, je vous lis juste, c'est un passage très court. Il dit ceci, quand nous allâmes à Saint-James pour voir le duc et la duchesse d'York. A priori, c'est déjà le verbe voir. La duchesse est fort laide, la bouche extraordinairement fendue et les yeux fort éraillés, mais très courtoise et qui parle bien français. Nous vîmes dans Saint-James un oiseau des Indes qu'il nomme Kessa Ouaroé, de la forme et de la grandeur d'une autruche, qui a toute la tête et le col pelé et d'un fort beau bleu, excepté un peu de rouge sous le bec et les barbes comme celles d'une poule. Son bec est gros et au-dessus de la tête, il a une grosse corne faite comme on les peint au rhinocéros, or qu'elle n'est pas pointue par le haut, mais arrondie. Tout son corps est couvert de plumes noires et grossières, il n'en a point aux ailes, mais seulement 4 ou 5 tuyaux, comme ceux des porcs-épics, sortent entre les plumes de son corps, du bout de ses ailerons de chair. Alors c'est lui, enfin on peut supposer que ce soit ce genre d'oiseau, et c'est cet oiseau qui attise sa curiosité, juste après la terrible laideur de la duchesse d'York avec ses yeux fort éraillés. C'est un regard implacable, c'est une sorte de caprice hein, du regard, hein, de la curiosité, qui n'exclut pas par ailleurs l'admiration. Hein. S'il y a dédain, il y a aussi beaucoup d'admiration, et cela donne plus de lustre encore à ce qui est admiré. En effet, ce regard, si sévère qu'il soit, sert une cause, celle de la curiosité, désormais exercer avec prudence, retenue, discernement. De fait, le jugement esthétique et scientifique n'en est que plus crédible quand Monconis dit qu'il a admiré. Et il le dit fort souvent. Les raretés de Dresde éveillent une vive admiration, ainsi que la quantité infinie de tableaux excellents, je cite, du Palais Farnèse à Rome, ou encore les excellents tableaux de Giuseppe Cagliari à Venise, qui mérite un traitement de faveur, et notamment une Vénus nue de Véronèse, qui donne lieu à une véritable ekphrasis, ou encore le cabinet d'un échevin d'Amsterdam, dont il dit qu'entre plusieurs belles curiosités, je remarquais la beauté de ces coquilles, où il y avait un fort grand nautile, un limaçon blanc, fait comme un bâton tortillé spiralement, si bien qu'on voyait le jour d'un bout à l'autre, comme dans un degré à vis. Une écritoire de bois avec des bas-reliefs de nacre, dont les personnages et feuillages étaient vernis dedans. Ouvrage très beau du Japon. Hein, vous voyez, il y a quand même des superlatifs aussi. Hein. Il n'y a pas que du mépris ou du dédain, loin de là. Et pour Setala, le fameux collectionneur de Milan, qui lui-même tournait ses objets hein, et avait un laboratoire absolument extraordinaire, la présentation des choses est significative. C'est l'homme d'abord qu'il qualifie d'homme incomparable. C'est l'homme d'abord qui importe. Et alors qu'il est à Milan et qu'il vient de voir le palais du vice-roi, eh bien, et qu'il a évoqué avec un certain mépris d'ailleurs, cet Allah apparaît en grande majesté, bien avant son cabinet, tout merveilleux qu'il soit. C'est-à-dire qu'il dit ceci, « Mais la chose la plus curieuse de cette ville est Monsieur le chanoine cet Allah. » Pas son cabinet. « Monsieur le chanoine cet Allah, gentilhomme aimé et honoré de tous les princes de la chrétienté, de tous les curieux et généralement de tout le monde. » Je le fus voir d'abord dans le laboratoire qu'il a dans le cloître de l'église où il est chanoine, où je vis ses petits microscopes très bons et la manière de laquelle il tourne tous les verres grands et petits, puis les polie avec l'étain calciné et délayé dans l'eau. L'après-dîner, donc un peu plus tard, je le fus voir chez lui, où il me montra exactement 4 chambres pleines de toute curiosité, entre lesquelles je remarquais, etc. Puis là, vous avez une liste assez détaillée d'ailleurs, des curiosités remarquables de cet Allah. Plus que ses curiosités, donc, et aussi avec ses curiosités, mais c'est l'homme, le collectionneur, ce qu'il fait, ce qu'il dit, qui importe aux voyageurs. Alors, à qui profite le scepticisme dont il fait preuve assez, en continu dans cet ouvrage? Eh bien, tout d'abord, sans doute à l'écriture, puisque cela implique minutie et exigence dans l'écriture. Également à l'auteur, qui donne à sa parole la force du discernement et la preuve qu'on peut visiter un cabinet et continuer à penser, et continuer à exercer son jugement, à réfléchir, à confronter, à raisonner. Et aussi, le scepticisme profite sans doute à la curiosité. Parce que quand elle intervient, elle est non feinte. Et le scepticisme illustre de ce fait le sérieux de l'ensemble, car dit le discernement qui a présidé à l'écriture non aventureuse, mais choisie des différentes curiosités. Le rare et le bizarre est le contrepoint qui montrera, par le scepticisme qu'on lui applique, que l'auteur reste maître de ses jugements comme de ses émerveillements, qu'il n'exprime jamais sur commande. C'est dire à la fois qu'on est savant, on ne se laisse pas manipuler comme un ignorant, on garde un esprit méthodique, on juge à l'aune des connaissances nombreuses qu'on a, et aussi c'est dire qu'on est libre. À son tour, la curiosité est donc au service du projet général de l'auteur, celui d'effacer l'erreur des communes opinions, l'intention étant de dire à quel point on ne se laisse pas berner, et la curiosité étant par excellence un domaine où la mystification peut faire son œuvre. Alors, démystifier la curiosité, c'est montrer aussi qu'on ne se laisse pas mystifier. Finalement, quel est l'art de la visite selon Monconis, si l'on récapitule? Son fils le dit bien dans son avertissement, il eut plus d'inclination à pénétrer les causes et chercher les raisons naturelles des curiosités que son frère ramassait avec soin. Ça a été la fin, c'est-à-dire l'intention, hein, de ses voyages qu'il a entrepris. Et il ne s'est pas donné tant de peine pour considérer seulement des clochers, des châteaux, des montagnes et des rivières, mais pour converser avec tout ce qu'il y a de savant dans le monde et se guérir ainsi des préoccupations du vulgaire. Alors que reste-t-il de la curiosité passée au laminoir de Monconis? Eh bien, l'émerveillement de circonstances a fait son temps. Lui pratique un émerveillement non systématique, donc on le suppose exercé à bon escient. Cela est gage de sérieux et montre qu'une visite, même émue, peut se faire sous l'égide de l'esprit scientifique, sans jamais bannir l'anecdotique, ni le spectaculaire qui font à leur manière tout le sel d'une visite. Le sceptique, mais très curieux Monconis, concilie des attitudes qui pouvaient sembler inconciliables et invente par là même la visite construite sur le déniaisement. Le récit de visite est ainsi conçu selon une pensée en mouvement, cherchant la controverse, avec mordant, avec précision, en ne s'interdisant ni le dénigrement, ni la sélection d'un seul objet, ni le choix par l'élimination, ni même la provocation. L'auteur redonne des lettres de noblesse au cabinet de curiosité, qui pouvait être jugé une manie dispendieuse, en lui offrant des bases méthodiques, et plus encore, en faisant l'instrument d'une réflexion sur la crédulité et sur l'état des connaissances de ses contemporains. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Myriam. C'était, comme toujours, clair, précis, intelligent, etc. Bon, je pense qu'on va écouter Pierre tout de suite, puis on posera des questions ensemble, enfin, pour les deux intervenants après. Mets-toi là, bientôt. Donc, Pierre Martin, quand je vous l'avais dit, remplace Kismerov presque au pied levé. Donc je le remercie tout particulièrement. Je vais te laisser annoncer ton titre, parce que je ne sais pas quel titre tu as choisi. Il n'y a pas de titre pour moi.
Je ne savais pas, il y a très bien, Martin, que j'étais sur le banc de touche. Donc,
donc c'est une intervention sans titre.
Ce que j'ai fait,
ouais. Vous le savez, tu
vois. Mais oui. Comme ça, ça va marcher, je pense. Je crois qu'on a fait exposer un Calao dans l'exposition, oui, il me semble.
Absolument.
Voilà. Donc, vous pourrez... vous pourrez le voir et avoir une pensée émue pour la duchesse d'York.
On n'a pas de portrait, on n'a pas de portrait de la duchesse.
Ah, ça, c'est dommage, c'est une erreur.
Ça existait,
c'est manqué de temps. J'aimerais beaucoup.
Elle risque d'être belle.
Oui. Bon. Donc, bon, une pensée amicale pour Kismerov, qui doit être vraiment dans la peine en ce moment. Je m'intéresse à un curieux. Bon, alors si c'est pas stable, c'est pas. Oui. Je m'intéresse à un curieux qui est un Français qui s'est établi en Hollande. Hein, c'est là le pont avec Kess, qui avait le projet de montrer les cabinets de curiosité auxquels s'intéresse un Rochelet, Elie Richard, dans un voyage qu'il a effectué lui-même en Hollande, en protestant qu'il est, non pas Kess, mais Elie Richard. Voilà. Nicolas Chevalier, vous verrez dans l'exposition la reconstitution spatiale, la configuration, si je puis dire, d'un de ces cabinets de curiosité qui correspond, d'après ce que l'on connaît, au deuxième état connu de son cabinet de curiosité à Amsterdam, sachant qu'ensuite il a déménagé tout ça à Utrecht, donc il lui a donné une autre configuration à cause du nouvel espace qui accueillait sa collection, qui évidemment s'est agrandie depuis Amsterdam, et puis en même temps qui a changé de composition, parce que la spécificité de Chevalier, c'est d'être aussi un négociant, un commerçant, donc il vend en partie les objets, sans qu'on sache exactement ce qu'il vend, mais au moins, ça on le sait, il fait commerce de médailles. Dans un récit de voyage qu'il a effectué, non pas à cette époque où il constitue des collections, une collection ou des collections, mais avant, qui correspond à sa jeunesse, un récit de voyage dans le Nord et puis ensuite à Paris, Nicolas Chevalier relate une visite à la bibliothèque de Sainte-Geneviève et évidemment au cabinet du père du Molinet. C'est un texte qui est un texte bref, quelques pages manuscrites, qui, parmi les quelques objets frappants, relèvent trois pièces maîtresses qui sont dans notre propre exposition, c'est cela que j'ai trouvé amusant, une corne de licorne, un vêtement de plume d'Amérique et une armure de samouraï. Vous pourrez voir trois de ces objets, qui ne sont pas ceux dont il parle, bien entendu, mais vous voyez qu'il y a là un point commun, une coïncidence que je voulais aussi souligner et exploiter. Comme ça. Voilà, ça c'est la tête, un des quatre portraits connus de Nicolas de Chevalier. Donc Nicolas de Chevalier, il est originaire de Sedan. Il naît dans un milieu protestant, dans une famille de riches négociants. Négociant assez riche pour envoyer ce fils aîné pour un voyage d'environ 5 ans, qui se fait en deux phases. Un premier voyage qui est nettement un voyage de prospection en Hollande. Il est chargé, par exemple, il le dit dans son récit, manuscrit, il est chargé d'apprendre la langue. Et il fait un tour en Angleterre, et puis il rentre au Bercail sur ordre de son père, en passant par Amsterdam à nouveau, puis par Hambourg, non sans faire une pause de 2 mois à Liège pour cause de maladie. Et puis, une fois rentré à la maison, il fait étape, mais sans qu'on ait d'indication temporelle dans le récit qu'il nous a laissé, il fait un séjour à Paris. Hein, il descend à Paris. Donc, il n'y a pas de date, sauf la date de départ. Il dit qu'il part le 17 octobre 1679, et il y a une date sur la page de titre, voilà la page de titre de son manuscrit, 1685, au bas d'un médaillon donc, qui porte les voyages de Nicolas Chevalier faits en Hollande, Angleterre et France. Et puis, il y a un autre titre intérieur, une fois passé cette page, qui dit « Abrégé de ce qui m'est arrivé dans mon voyage d'Hollande et de France, avec toutes les remarques que j'ai faites de toutes les maisons royales et de plusieurs autres belles maisons qui méritent que l'on en parle, avec tous les plans desdites maisons. » Et suit immédiatement un protocole, hein, c'est les premières lignes du manuscrit, un protocole, un pacte. Je le cite. « Voici la règle que je me suis proposée en écrivant ces mémoires, et je ne dirai rien dont je n'ai eu part ou que je ne l'ai appris par des personnes non suspectes ou qui n'aient agi dans les actions que je raconterai, me proposant sur toute chose la vérité comme le fondement essentiel et pour ainsi dire l'âme de ces mémoires. Je ne les chargerai point de bagatelles ni de niaiseries de ma jeunesse, quoique plusieurs croient que les enfants, dans le commencement de leur vie, donnent souvent des marques de leur esprit et de leur tempérament et font voir de certains rayons qui montrent ce qu'ils feront dans un âge plus avancé. Mais tous ces pronostics sont souvent très faux. Et pendant que j'étais jeune, j'ai vu de mes camarades qui donnaient de grandes espérances qui n'ont été ensuite que des vagabonds et des misérables. » Vous voyez que c'est un préambule qui commence par ce qu'on identifie rapidement comme une caractéristique habituelle d'un pacte de lecture, le principe d'autopsie, de voir par soi-même les choses, comme garantie de la véracité de ce qui est rapporté. Et à défaut, ce principe d'autopsie est délégué, pour ainsi dire, à des personnes non suspectes, dit Chevalier, c'est-à-dire des personnes de bonne foi. Et alors, ce qui est plus original, il se termine par une où il s'articule avec une deuxième déclaration, une déclaration de principe qui mérite d'être relevée. C'est le rejet d'un contre-modèle par rapport à ce qu'il veut offrir par son manuscrit. Ce qu'il rejette, c'est une lecture orientée de l'histoire personnelle. Hein, c'est la surinterprétation d'anecdotes ou de traits personnels qui seraient destinés à conforter une image valorisée de soi. Autrement dit, ce qui est rapporté, nous dit-il, ne s'agrémentera pas de micro-récits autobiographiques qui seraient l'objet d'une espèce de lecture téléologique, hein, biaisée, controuvée, hein, en fonction de la grandeur supposée du personnage qu'il serait devenu ou qu'il serait appelé à devenir. Vous aurez peut-être remarqué aussi qu'il emploie le terme « jeunesse » et « enfant ». Ce qui renvoie au moment de l'expérience viatique, de l'expérience de son voyage. Il faut préciser que Chevalier est né le 1er juin 61. Donc il vient d'avoir 18 ans quand il part en Hollande le 17 octobre 79. Et le manuscrit, je l'ai déjà dit, il est daté de 85, donc il a 5 ans ou 6 ans de plus. Et il est entré de plein pied dans la vie active. Donc la date de 85 qu'il porte sur la page de garde ou de titre correspond à l'achèvement de l'écriture. C'est le moment où il va confier l'alias à un relieur, puisque le manuscrit est relié. Cette année-là, on sait que Chevalier est à Amsterdam et même qu'il y est établi à Amsterdam. Il possède un négoce, hein, il est négociant. Il y a un document officiel à la date du 12 juin 1585 qui le dit exerçant le métier de droguiste, c'est-à-dire qu'il fait le commerce de produits exotiques, en particulier thé, la triade thé, café et chocolat. Donc reste à savoir, puisque j'aborde la question du temps, quand situait la visite au cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Je remarque que c'est un manuscrit qui respecte la chronologie de ses déplacements. On peut penser que le récit de son séjour à Paris, qui se fait après le périple dans les régions du Nord, est également chronologique. Mais ça n'est qu'une hypothèse, hein. Je pense qu'elle est raisonnable. Et lorsqu'il dit à un endroit de son manuscrit qu'il a rencontré, c'est vers la fin, qu'il a rencontré et plaisanté avec monsieur, frère du roi, à la faveur de l'anonymat, il ne savait pas que c'était le frère du roi, au cours d'un bal masqué pour le carnaval, et que ça s'est passé, je cite, « il y a environ un an ou deux ». Cette datation interne, relative, c'est par rapport au moment de l'écriture, qui, je vous le rappelle, s'achève en 85. Et on peut poser que l'approximation un an ou deux correspond certainement plutôt à l'ordre de 2 ans, parce que immédiatement après le récit de cet épisode, il mentionne le décès de la reine et le détail des cérémonies, et on sait qu'elle meurt le 30 juillet 1583. 1683, même habitude de sésiémiste, évidemment. Et avant l'anecdote du bal, Nicolas Chevalier a longuement développé un autre micro-récit de ce qu'il appelle une galanterie. Sa galanterie, c'est le terme qu'il emploie. C'est une grosse scène de drague, si vous voulez, très compliquée, à coups de feux d'artifice, etc. C'est très dispendieux aussi, qui se situe à Corbeil, en pleine époque des vendanges, donc sans doute au début du dernier trimestre 82. On a donc affaire à trois événements là, qui s'enchaînent, et à partir de la mention de la mort de la reine, qui est précieux pour nous, parce qu'il nous fournit, plutôt elle nous fournit une date fiable et précise, et à la suite, le récit ne présente plus aucune anecdote personnelle. Ce sont des descriptions de curiosités, pour la plupart architecturales, je crois qu'il faut insister là-dessus. Et ça se termine pratiquement par la visite de Sainte-Geneviève et du cabinet du père du Molinet, sans qu'il soit, pour le coup, possible de préciser le moment entre ces deux terminus, donc l'exposition du corps de la reine à Saint-Denis, courant septembre 83, et l'année 85. Entre fin 83 et fin 84, probablement, il faut lui laisser le temps de rentrer à Sedan et puis de s'installer à Amsterdam et d'ouvrir un négoce. On peut imaginer quand même que ça prend un certain temps. Une chose est sûre, à cette date, il a pu rencontrer le directeur de la bibliothèque et créateur du cabinet en 75, grâce à la collection de Péresque en particulier et aux médailles données par Harlay, Claude Dumolinet meurt en 87. Donc il transcrit, il écrit le récit de sa visite et je vais vous faire grâce d'absolument aucun détail parce que je vais le lire, vous verrez c'est bref, je vais le lire à cheval si je puis dire, au galop. Ça commence à la cinquième ligne. De là, il faut monter à la bibliothèque. Alors, vous verrez que ce qui rend la lecture un peu difficile, c'est la terminaison des mots, en particulier quand il y a une combinaison de E et de S. Ça a tendance à s'étirer avec une graphie compliquée, mais vous allez voir que l'œil s'habitue, puis je vous dirai quand on change de page, donc ce n'est pas très compliqué. De là, il faut monter à la bibliothèque que l'on estime est prise comme une des plus belles et des mieux disposées de Paris. Elle occupe le dessus d'une des quatre, alors le mot partie est biffé, de quatre L qui sont autour le bâtiment. Elle est à la vérité un peu élevée pour la situation, mais en récompense, elle est à la vérité un peu élevée. Il se rend compte qu'il s'est trompé, il raye, n'en est que plus clair et on y verra une très grande quantité de livres rangés dans des armoires d'une très belle menuiserie, avec des bustes de tous les grands hommes de l'Antiquité modelés sur ceux qui sont à Versailles. C'est le révérend père Dumolinet, un des plus savants et des plus habiles hommes que nous ayons aujourd'hui dans la connaissance des livres et dans la belle recherche de l'Antiquité, qui en prend le soin. On y conserve une quantité d'estampes, dont une partie vient d'un nommé Monsieur Accard, qui en était fort curieux et qui, en mourant, laissa tout ce qu'il avait amassé à Saint-Victor, à Saint-Germain-des-Prés et à Sainte-Geneviève. C'est la donation, enfin c'est le testament de Accard. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont des plus rares et des mieux conservés. Ça va, vous pouvez suivre à peu près sur le texte. Au bout, on entrera dans le cabinet de ce père qui est extraordinairement rempli des curiosités. Et on y trouvera de toutes les sortes, mais principalement en médailles d'or et d'argent, de grands et petits bronzes très bien choisis, entre lesquels il y en a de fort rares. On doit considérer cette suite que ce père a fait lui-même comme la plus complète et la plus ample qui soit en France après celle du cabinet. À page droite, du roi. Entre plusieurs choses singulières, dans une petite armoire, on verra des couteaux sacrés dont les anciens se servaient à égorger les victimes, une patère sur laquelle ils détrempaient la farine avec de l'huile et le vin pour frotter les bêtes que l'on immolait, des sphinx ou des idoles que l'on trouve dans les momies, des clés antiques, des styles dont les Romains se servaient pour écrire, une table de cuivre sur laquelle sont attachées de petites boules de même métal que l'on place comme l'on veut et dont on se servait pour l'arithmétique. Plusieurs sortes de lacrymatoires ou de fioles de verre dans lesquelles les anciens conservaient des larmes des pleureuses que l'on louait exprès pour assister aux funérailles avec des petites cuillères de cuivre qui leur servaient à les ramasser sur des tabliers de cuir qu'elles avaient derrière elles exprès pour ce sujet. Dans une autre petite armoire à main droite, sont toutes sortes de mesures pour les choses liquides et des poids pour peser les marchandises selon l'usage des anciens. Dans une autre, ils conservent tous les poissons du parmesan avec, page droite, lesquels c'est une variation. Le fameux graveur contrefaisait si bien les médailles antiques que les plus savants dans cette science y étaient trompés et prenaient les médailles faites par cet habile ouvrier pour véritables et frappées du temps de ceux qu'elles représentent. C'est peut-être une des plus curieuses choses que l'on puisse désirer, et ceux qui se connaissent en médailles l'estiment beaucoup. Avec cela, on pourra remarquer plusieurs pièces d'optique de l'invention du père Niceron, minime, dont on a parlé. Le pied d'une petite momie très bien conservée, quelques poissons extraordinaires sur l'autre page, mais une autre rareté qui, dans les siècles passés, aurait été estimée un trésor tout entier, est une grande corne, mais je crois que extraordinaire, alors j'ai loupé une page, hein. Extraordinaire, c'est sûr, c'est la page-là à gauche. Mais une autre rareté qui, dans les siècles passés, aurait été estimée un trésor tout entier, est une grande licorne de licorne, blanche comme de l'ivoire, haute de 5 ou 6 pieds, d'une grosseur très considérable, qui n'est pas moins belle que celle du trésor Saint-Denis, pour laquelle on dit que la République de Venise envoya offrir autrefois la somme de 100 000 écus pour en faire présent à un roi de Perse. Dans un autre petit cabinet, il y a de toutes sortes de pierreries, de coquilles, de pierres de mine, vous passez sur la page à droite, très considérables et d'autres choses semblables. Vis-à-vis la porte, en entrant, sont différents habits de plumes, de perroquets et d'autres oiseaux travaillés avec beaucoup d'artifices qui viennent de l'Amérique. Une cuirasse et un corselet du Japon, d'une espèce de vernis et d'une forme particulière, ça certainement c'est la cuirasse de samouraï, un bouclier de soie apparemment d'un même pays, et ce qu'on ne trouve guère ailleurs, un grand nombre de souliers de presque toutes les nations du Levant, qui sont fort différents des nôtres. Il y a une chaîne d'un bois très léger et fort longue, d'une seule pièce composée de diverses pièces, de telle façon qu'on ne peut juger si elle est un ouvrage de l'art ou de la nature. Il y a beaucoup d'autres singularités à remarquer, comme une mâchoire de poisson d'une grandeur extraordinaire, qui a plusieurs rangs de dents aiguës, quelques tableaux assez bons et diverses autres choses rares, fort bien choisies. De là, il faut aller au jardin du roi, etc. Et il embraye sur autre chose. Voilà, fin du récit de la visite. Quelques réflexions immédiates à première lecture. On a affaire à un parcours logique avec des objets remarquables. Et comme on a la chance d'avoir un catalogue du cabinet aménagé par Dumolinet, catalogue posthume, mais préparé par Dumolinet lui-même et publié après sa mort en 92, on peut contrôler ce qu'il dit en feuilletant le document. Et encore une fois, j'insiste, hein, il est postérieur au manuscrit de Chevalier. Ça commence, le document, donc je parle maintenant du catalogue de Dumolinet, commence très logiquement par la bibliothèque, puisqu'il faut passer par la bibliothèque pour accéder au cabinet. Hein, on ne peut pas faire autrement. Donc, la bibliothèque avec ses bustes, voilà une gravure dans le catalogue qui montre cette bibliothèque, et voilà une vue des bustes, ou de quelques-uns de ces bustes, les bustes de Platon, de Socrate, de Clyde, de Cicéron. Et ensuite, donc, Molinet mentionne la collection d'estampes, dont un gros tiers, effectivement, viennent de Nicolas Accard, dont le nom s'orthographie A-C-A-R-D chez Molinet. Accard qui est évoqué de façon très peu élogieuse par Bichat de Marolles. Véronique Meyer, qui est professeure ici, en histoire de l'art, a exploité l'inventaire après décès de ce personnage. Attenant à la bibliothèque, le cabinet du père Dumolinet, avec des objets qu'on trouve évidemment en partie dans le catalogue en question, il faut peut-être signaler que c'est un catalogue partiel, hein, un catalogue qui procède d'un choix d'objets. Ce n'est pas du tout un catalogue exhaustif. Donc, il est tout à fait normal que ce que nous dit Chevalier, ce que son manuscrit nous donne à lire et ce qu'on lit dans le catalogue de Dumolinet ne se recoupe pas parfaitement. Chevalier commence par la collection de médailles, avec une classification très sommaire, mais qui recouvre la pratique de la collection et de sa présentation selon la valeur des métaux. Hein, l'or, puis l'argent, puis le grand bronze, puis le petit bronze. Et l'ensemble, dit-il, fait une suite complète. C'est son expression, une suite, et c'est ça qui en fait son prix. Molinet, lui, explique dans son catalogue que son cabinet abrite 12 cabinets au sens de meubles. Hein, 12 cabinets meubles, 4 grands et 8 petits. Il y a 2 des grands cabinets et 4 des petits cabinets qui renferment les collections de médailles et de monnaies, plus un petit cabinet pour les coins et un autre pour les jetons. Donc ça représente quand même une part de sa collection qui est extrêmement, extrêmement grande. Dans une autre des grandes armoires ou cabinets, Molinet dit dans sa préface qu'il entrepose les petites antiquités. Et c'est à celle-là que passe le texte de Chevalier. On trouve le couteau de sacrifice à la page 22 du catalogue, et il est représenté sur la, plage, sur la planche 10, sous le numéro 7. Hein, vous le voyez, numéro 7, Molinet dit « Ce couteau dont on se servait pour égorger les victimes est fort entier, d'une manière assez commode pour cet usage. » Et Molinet précise qu'il en a deux exemplaires qui viennent de la collection de Peiresc. Sous la même planche, sous le numéro 5, vous avez la patère. Sur cette planche qui suit au numéro 1, vous trouvez, c'est au centre de la planche, la table de cuivre qui est l'abacus. Je cite le mot employé par Molinet, hein, que Molinet décrit à la page suivante, la page 23, en disant « Cette pièce est fort rare et singulière, c'est une tablette à compter que les anciens appelaient abacus. On y voit en bas 9 rangées d'ouvertures dans lesquelles sont des boutons de cuivre rivés par derrière que remue celui qui s'en sert comme il veut. » Et sous le numéro 4, c'est une de ces fioles lacrymales qu'il décrit aussi. Sous le numéro 5, la cuillère à recueillir les larmes, il en donne la description, page 26. Sous le numéro 3, c'est un de ces styles ou stylets dont Molinet dit qu'on les confond parfois avec des fibules. Sous le numéro 13, d'ailleurs, vous voyez qu'il prétend que c'est à nouveau un stylet, et non pas un style, pardon, et non pas une fibule. Il estime que c'est un style particulier pour écrire sur les tablettes de cire. Cette confusion-là, elle est dès la première représentation de Momie dans Péto, hein, dans le bouquin de Péto. Sous la momie, il y a une fibule qui est confondue avec un style. Au numéro 12, vous voyez deux clés de bronze dont Molinet dit qu'il en a plus de 2 douzaines dans un clavier pareillement antique. Et puis ensuite, Chevalier passe au poids, voilà, qui correspond à ces planches-là, celle-là et celle-là. Vous voyez les petits poids. Et ceux que Molinet fait graver proviennent, dit-il, de la collection de Peiresc. Et il les range, dit-il dans sa préface, dans le troisième des grands cabinets. Un autre cabinet, c'est le deuxième des petits cabinets présentés dans le catalogue de Molinet, abrite, dit Chevalier, les coins avec lesquels le parmesan, le parmigiano, faisait des faux. Molinet, lui, parle des médailles padouanes. Évidemment, c'est lui qui a raison, ce sont les coins des padouans. Je vous lis quelques extraits du texte. Elles datent de 1565. Elles ont été réalisées par Giovanni Cavino, par son fils Vincenzo et Alessandro Bassiano. Il dit, c'est un peu petit pour lire, je crois, je n'avais pas d'abord pris le dessein de donner au public la connaissance des médailles, ou pour mieux dire, des creux des médaillons que l'on nomme padouans, et que nous avons depuis l'année 1670, par la libéralité de M. Thomas Lecointe, antiquaire du roi. Beaucoup de mes amis m'ont engagé à en parler et m'ont assuré que ce que j'en dirais serait d'une grande utilité aux nouveaux curieux, et même à quelques-uns qui, étant des plus versés en la science des médailles, ne laissent pas d'y être quelquefois trompés. Puis, ce qui concerne l'optique, hein, que mentionne ensuite Chevalier, correspond au septième des petits cabinets. Je vous fais grâce du document de Molinet. Pour ce qui est du pied de momie, je ne sais pas trop, mais la corne de licorne qui fait l'objet d'une gravure, elle est conservée autour du huitième des petits cabinets, dans lequel il y a des pierres gravées et des animaux. Le commentaire de Molinet est intéressant. La corne de licorne est absolument dévaluée à cette époque-là. Je vous renvoie à Schnapper. Et Molinet casse le mythe en disant nettement qu'il s'agit de la dent d'un poisson qu'on pêche au Groenland et que les autochtones, en plus, appellent narval parce qu'il se nourrit de cadavres. Donc, vous voyez, la dévaluation, elle est multiple. Quant à la licorne dont il est fait mention à 4 reprises dans les psaumes et dans un verset d'Isaïe, dit-il, eh bien, ça n'est autre, sans doute, que le rhinocéros. Et puis, après avoir mentionné le petit cabinet aux minéraux, le compte-rendu de Chevalier s'intéresse à des artefacts exotiques dont il dit qu'ils sont face à la porte. On peut supposer que ces objets ne sont pas dans des armoires, mais dans cet espace entre 2 fenêtres que la préface du catalogue situe justement en face de la bibliothèque et que Molinet décrit comme une espèce d'alcôve d'architecture. On y voit, dit-il, plusieurs sortes d'habits et des armes de pays étrangers. Je vous montrerai, je crois, tout à l'heure. Alors, la première chose qu'on tire de cette description, à la lire de façon naïve, comme je le fais dans un premier temps, est objective. C'est qu'elle prend en charge des objets remarquables et que la plupart sont d'ailleurs choisis par Molinet lui-même pour être représentés sur les gravures qu'il a fait exécuter. La deuxième est parfaitement subjective et en tout cas correspond à ce qui a été ma première réaction, et j'assume cette subjectivité, même si elle est stupide. Il est difficile, je crois, de ne pas tomber, quand on connaît Chevalier, dans le travers de ce que Chevalier précisément récuse dans la préface, c'est-à-dire le travers d'une espèce de lecture téléologique du document. On ne peut pas s'empêcher de projeter sur cette place de choix qui est donnée aux médailles ce que l'on sait sur le devenir de Chevalier, puisqu'il commencera par collectionner les médailles, une grande partie de son activité de collectionneur de petites antiquités tournera autour des couloirs, des vases lacrymaux et des monnaies. Il entreprendra une collection exhaustive des médailles qui accompagnent le règne de Guillaume III. Et cette collection est le point de départ d'une publication, d'une histoire métallique. Et lui-même acquérera le droit de frapper médaille, puisqu'on peut avoir cette possibilité en Hollande. Il rachètera du matériel et même un fonds de coin qui lui permettra de poursuivre l'activité d'un autre médailliste célèbre à la mode à son époque. Alors évidemment, c'est une réflexion qui est idiote, puisque la quantité de meubles dévolus aux monnaies et aux médailles suffit à justifier la place de choix qui est donnée à cette part de la collection dans le récit. En revanche, le jeu de la lecture téléologique semble plus intéressant quand on aborde le passage sur les coins padouans, qui fait au fond une véritable apologie du faux, au nom de la curiosité et de la science réunie. Car la leçon à tirer, c'est que le faussaire démontre d'abord sa compétence de savant, et ensuite, accessoirement, c'est un faussaire. Hein, mais c'est quelqu'un de bien, le faussaire. Et par conséquent, il mérite pleinement l'admiration des curieux et ses réalisations sont recherchées de façon très très légitime. Et on se dit que Chevalier saura retenir la leçon pour l'appliquer à sa propre activité de curieux et de curieux commerçant en antiquité plus ou moins douteuse, comme le relèvera un article assassin du journal des savants que j'ai cité dans un passage de ce catalogue consacré à Chevalier. Donc j'en fais l'économie ici. Bien, mais toutes ces spéculations-là, je le dis tout de suite, sont complètement fausses, parce qu'il n'y a pas un traître mot dans ce récit de visite qui soit de Chevalier. On a affaire en réalité à un plagiat absolument éhonté, ce qui en soi est une pratique qui n'est pas dépourvue d'intérêt. Hein, vous l'admettrez, vous le reconnaîtrez. Donc je vais me consacrer la dernière minute qui me reste à remettre, comme on dit, les pendules à l'heure. Vous aurez remarqué au début des... Alors, t'es coincé. Bon, il veut plus jouer. Au début du récit, vous avez peut-être remarqué des biffures. Hein. Il y a deux passages qui sont biffés, un passage en tout cas qui est répété et biffé, et qui nous montre que de toute évidence, Chevalier recopie. Donc ce n'est pas un scoop que de dire qu'il recopie. Mais il n'y a rien d'extraordinaire à cela. On pouvait faire l'hypothèse qu'il était d'abord passé par un brouillon, hein, qu'il a mis au propre, ou bien encore qu'il a rassemblé pour faire son récit des notes prises au jour le jour et qu'il les a mises en forme. C'est comme ça en tout cas que, de façon avouée, de façon transparente, le récit de la galanterie que j'évoquais au début de cette intervention se présente comme une longue lettre à son cousin, avec une forte inscription du destinataire dans la lettre, puisque c'est une lettre. Et il est évident qu'il recopie là le brouillon d'une lettre qu'il a conservée, ou encore la lettre qu'il a récupérée, mais plus vraisemblablement le brouillon, puisque cette lettre est vraiment très très longue. Mais pour ce qui est de la visite au cabinet de Saint-Geneviève, en réalité, Chevalier ne recopie pas ses notes, mais recopie un texte halogène, déjà constitué, imprimé. C'est un guide touristique contemporain qui est dû à quelqu'un qui s'appelle Germain Brice, et c'est un guide touristique qui connaîtra de très nombreuses rééditions, qui s'intitule « Description nouvelle de la ville de Paris par Monsieur B. et 3 astérisques ». Le texte paraît à Paris, chez Nicolas Legras, en 1684. Et c'est vraiment, tout simplement, le même, à quelques inadvertances près, et dans le plus grand mépris de la ponctuation, que l'on a dans le manuscrit de Chevalier, Chevalier recopie mot pour mot. C'est bien là, par exemple, que Chevalier a trouvé l'orthographe pour Acar avec un H et un T à la fin. Il a simplement redoublé le C. Voilà, il a apporté encore une distorsion dans le texte qu'il recopie. Outre les erreurs d'orthographe ou les simples variations permises par l'hétérographie du français de l'époque, il fait ce qu'on peut appeler quelques erreurs de copiste. Par exemple, le mot « busque » que l'on trouve à la troisième ligne, de la page droite, vous voyez, à la fin de la ligne. Des bustes, des busques pour les bustes, évidemment, B-U-S-T-S, pour les bustes, E-S. Hein, mais le texte de Germain Brice porte buste, B-U-S-T-S. Lorsqu'il dit « on y trouvera de toutes les sortes, mais principalement en médaille », c'est évidemment du français incorrect, mais on le comprend mieux, le français en question, lorsqu'on sait que le « en » est déjà présent au début de la phrase « on ». N'y en trouvera. Donc il est logique d'avoir en médaille. Avec de l'huile et le vin, c'est une structure qui ne tient pas la route, même dans le français de la fin du XVIIe siècle. Brice écrit évidemment avec l'huile et le vin. Ou encore, les pleureuses portent leur tablier de cuir, non pas derrière elles, mais devant elles. C'est quand même plus pratique pour récupérer les larmes qui coulent, hein, évidemment. Bon, vous voyez, il y a des inadvertance, comme aussi vous avez remarqué la licorne d'une licorne. Évidemment, Brice écrit la corne d'une licorne, évidemment, pas la licorne d'une licorne. Et puis alors, il y a ce passage, je ne sais pas si je vais le retrouver comme ça, et puis c'est le passage où il parle. Une chaîne d'un bois très léger et fort longue, d'une seule pièce, composée de diverses pièces de telle façon qu'on ne peut juger si elle est un ouvrage de l'art et de la nature. Un passage qu'on ne comprend pas très bien, évidemment, parce que dans l'original, il n'est pas question non pas d'un, mais de deux objets. Et même d'un troisième objet entre les deux objets en question, et le troisième passe à la trappe. Germain Brice écrit « Il y a une chaîne d'un bois très léger et fort longue d'une seule pièce, point virgule, des pétrifications très curieuses, et, troisième objet, une pierre composée de diverses pièces, de telle façon qu'on ne peut juger si elle est un ouvrage de l'art ou de la nature. » Ah, on comprend mieux les choses, hein, qui se mettent en place. Vous avez un premier objet qui est remarquable parce qu'il a fallu sculpter les maillons d'une chaîne dans ce qui était au départ une seule pièce de bois. Bon, c'est ce qu'on fait encore, hein, dans des artisanats de pays du tiers-monde en particulier. Le deuxième objet, je passe. Et le troisième objet correspond à ce que Molinet décrit page 218 de son catalogue. Normalement, j'ai un document qui le montre. Hop, c'est ça. C'est ce qui est au milieu de la gravure. Une pierre d'Amon. Vous avez le titre sur la page gauche, hein, au numéro 1. Une pierre d'Amon, c'est-à-dire un fragment d'une grande ammonite. Hein. C'est un fragment d'ammonite. Et il écrit, cette pierre, je parle donc de Molinet, cette pierre se peut dire à bon droit un jeu de la nature, et par sa figure et par ses ornements. Elle a environ un pied de longueur. Donc on se rend compte que la bête, si je puis dire, entière, est absolument énorme, hein, et 5 pouces de diamètre. Elle est composée de 5 pièces enclavées ensemble, presque en la matière des vertèbres de l'épine du dos, de la colonne vertébrale. La plupart de ceux qui l'ont vue l'ont cru artificielle, mais les plus habiles sculpteurs de Paris l'ont jugée naturelle. Mais comme son spécimen, dit-il, est tombé et que la dernière partie s'est désolidarisée, il peut affirmer que c'est un objet qui est naturel. Alors, j'insiste sur le fait que dans la représentation qu'a voulu le Molinet, vous voyez, dans cette section, hein, puisqu'il travaille par section, qui ne correspond pas forcément au contenu de cabinet ou d'armoire, hein, d'ailleurs, hein, il y a des regroupements, mais dans cette section-là, c'est l'objet vedette. Hein, c'est l'objet numéro 1, c'est l'objet qui est décrit, commenté en 1 dans l'espace de cette section, c'est l'objet qui est représenté au centre dans l'espace de la gravure. Article vedette, hein, de cette section intitulée « Les pierres et les minéraux ». De la même façon, l'abacus est l'article vedette. Dans sa catégorie, donc dans le petit chapitre qui le concerne, il est placé en première position. Et vous avez vu dans la planche où il est représenté, il est aussi mis au milieu. Alors on peut sans doute en déduire que, à défaut de Chevalier, Germain Brice, puisqu'il s'agit de son compte-rendu, Germain Brice fait une visite guidée et que sa restitution rend compte de ce sur quoi celui qui le guide, hein, le collectionneur sans doute, lui-même, a jugé le plus digne d'attirer son attention, ce que Dumolinet lui-même a jugé le plus digne de retenir. Et comme le catalogue est inachevé, il est possible qu'un objet comme l'armure de samouraï ait relevé par Brice parce qu'il est présenté comme un objet important par Molinet dans son discours oral. Et ça pourrait bien être cet objet qui est placé, encore une fois, au centre d'un espace. Ça ressemble à une cheminée. En réalité, c'est ce qu'il appelle cette alcôve d'architecture, hein, avec des... On ne rappelle plus le terme qu'il emploie, des buffets, je crois, de part et d'autre, et un gradin au-dessus. Voilà, buffet et gradin, je crois que c'est les termes qu'emploie Dumolinet. Puis vous voyez, en dessous de cette armure, de cette cuirasse, eh bien, il y a un objet qui pourrait bien être le bouclier, hein, dont parle le bouclier verni, dont parle le bouclier de matière de soie, je crois, dont parle la restitution de la visite de Germain de Brice. Et vous voyez la collection de chaussures exotiques à côté. Quand Molinet décrit la bague, il dit que l'utilisateur remue les boutons de cuivre. Remue, c'est son verbe. Et il ajoute « comme il veut ». Il remue les boutons de cuivre comme il veut. Et Brice, que recopie Chevalier, dit qu'on les place comme l'on veut. Cette identité d'expression, évidemment, est à interroger, est à souligner, puisque ça ne peut pas venir du discours écrit du père Dumolinet, il est tentant de penser que ça vient de son discours oral, dans le cadre d'une visite guidée. Et on peut supposer que Dumolinet a tendance à présenter, à raconter, à commenter ses articles vedettes, si je puis dire, toujours de la même façon, en tout cas avec le même type d'expression, comme un discours rodé, nous le faisons nous-mêmes, hein, souvent. Et dans le même développement dans le catalogue de l'usage de l'abacus, Dumolinet désigne l'objet comme un instrument d'arithmétique, et vous avez peut-être saisi au passage que c'est une expression qu'on trouve aussi chez Germain Brice. Bon, vous voyez que je suis passé allègrement du rapport de la visite de Chevalier au rapport de la visite de Germain Brice. Vous comprenez pourquoi, hein, puisqu'il s'agit en fait du texte de ce dernier. Dans le contexte, un contexte particulier, le contexte de la préparation d'un guide touristique. Je crois, hein, je ne suis pas spécialiste de cette période-là, mais il me semble que le compte-rendu de la visite de Germain Brice est un compte-rendu de première main. Finalement, on ne sait jamais. Sous réserve, il faudra que je creuse un peu la question. Enfin, on va faire comme si, pour l'instant. Et je ne crois pas être inintéressant de revenir maintenant à Nicolas Chevalier pour interroger cette pratique qui consiste à s'approprier le récit de visite d'autrui dans un manuscrit, donc dans un document qui, en tout cas, au départ, est destiné à circuler de façon assez confidentielle, peut-être. Avec cette première question, si Chevalier a bien visité le cabinet du père Dumolinet, est-ce qu'il a fait sa visite avec le guide touristique de Brice en main ou dans sa poche? Ça, c'est une pratique qui est attestée déjà à son époque. Mais ici, elle ne me semble pas vraiment plausible parce que le privilège du document de Brice précise la date d'achevé d'imprimer, c'est le 30 mars 1684. Il faut arriver au mois d'avril pour que le document puisse être dans les mains du visiteur. Et ça reculerait la visite d'une quinzaine de mois après la dernière anecdote personnelle, et ça me semble vraiment beaucoup compte tenu finalement du peu de choses qu'il y a dans cette fin du manuscrit. Il me semble plus raisonnable de penser que Chevalier s'est procuré le guide après son retour, et précisément pour la rédaction de cette partie de son voyage. Et puisqu'il achève son manuscrit courant 1685, et que ça n'est pas un manuscrit démesurément long, et que courant 85, il est établi à Amsterdam, rien n'interdit de lorgner du côté de la deuxième édition du guide de Brice, qui est précisément une édition hollandaise, à La Haye. Et il est inutile d'aller voir les éditions postérieures, parce qu'à partir de la troisième édition, il n'est plus question, au début du récit de la visite, des quatre grandes ailes qui forment le bâtiment, mais des quatre grands corps qui forment le bâtiment, et le nom de Hacquard perd le H. Et quand il est question de l'équipe de numismate faussaire de la Renaissance, le Pardesan devient le Padouin, ce qui est plus conforme, évidemment, à la réalité et au discours de Dumolinet. Donc, Chevalier, de toute façon, recopie soit l'édition de 84, soit l'édition de 85. Il y a un détail qui me fait pencher pour l'édition hollandaise de 85. C'est une des erreurs de transcription. C'est celle qui concerne la dernière que j'ai pris en considération, hein, celle qui est longue avec les deux objets qui sont confondus en un seul objet. Quand on recopie, hein, vous avez une mécanique de l'œil qui fait que l'œil fait un va-et-vient entre le texte source et le texte et le support sur lequel on est en train d'écrire. Il y a une question de mémorisation et on comprend des facteurs d'erreur. Quand on compare la disposition du texte pour l'édition de 84 et la disposition du texte pour l'édition de 85, on comprend que l'erreur provient d'une lecture du texte de 85, tout simplement parce que le mot « pierre » et le mot « pièce » sont l'un en dessous de l'autre, légèrement décalés. Donc l'œil est venu accrocher ce qu'il croyait être le mot « pièce » pour pouvoir dire la suite, mais en fait a accroché le mot qui était en dessous et a poursuivi sur la suite. C'est imparable, hein, comme... Bon, vous allez me dire, c'est peut-être mince, mais je vous assure que c'est probant. Je vous assure que c'est le genre de détail imparable. Bon, mais enfin, voilà. Peu importe. Le fait que, comme je le pense, il écrive sur en recopiant un texte de 85, enfin une édition de 85, est à mettre en relation avec le fait qu'il renvoie dans son préambule, que je vous ai lu au début, son expérience viatique à la période de sa jeunesse, de son enfance, alors que finalement, une année ou une année et demie tout au plus le sépare de l'écriture. C'est qu'il a le sentiment d'avoir carrément changé de vie. Hein. Il est entré dans la vie active, il s'est établi commerçant, négociant, etc. Effectivement, il est de plein pied dans la vie professionnelle. Et cette vie à quoi le voyage, en partie, devait le préparer. Il y a même un séjour, je ne sais pas si je vous l'ai dit, dans une ville hollandaise où il reste assez durablement parce qu'il y a pour mission d'apprendre la langue. Hein. Son père lui a dit d'apprendre le hollandais. Auquel cas, et pour en revenir à ma question concernant la pratique de Chevalier, il faut poser que non seulement sa restitution est parfaitement impersonnelle, mais qu'elle est recopiée sur un guide qu'il a acheté après coup, après avoir fait le voyage. Autrement dit, son propre souvenir est comme oblitéré par le récit qu'il lit et qu'il décide de recopier, par commodité, pour je ne sais quelle autre raison. Le guide dont il fait l'achat après coup sert de support mémoriel. Et quitte à écrire un compte-rendu, bah autant recopier. C'est après tout une pratique assez courante du récit de voyage. Chevalier se facilite la tâche et substitue à la pratique du récit rétrospectif, hein, au récit rétrospectif de sa propre visite, le récit qu'il a sous les yeux, alors qu'il vient de découper une gravure de la statue d'Henri IV pour illustrer un passage qu'il a également pompé dans le même guide. Parce que le document sert aussi de réservoir de gravures, de réserve de documents iconographiques qui sont découpés pour illustrer le récit. Et ça aussi, c'est une pratique absolument courante. J'en veux pour preuve, alors si Caisse avait été là, j'aurais eu le plaisir de renvoyer à son édition du récit d'Élie Richard, hein, qui fait la même chose. Hein. Il achète des guides de voyage et puis il découpe et il colle dans son manuscrit, dans le manuscrit de son récit de voyage. Mais alors, reste quand même une autre question. Évidemment, Chevalier a-t-il seulement visité le cabinet de la bibliothèque Sainte-Geneviève ? Bon. Si la réponse est non, alors on passe d'un document utilisé comme auxiliaire au travail de mémoire à un document utilisé comme auxiliaire à une entreprise d'affabulation pure et simple, auquel cas le préambule sur l'autopsie comme garantie de véracité est un bel exemple de dénégation typique du menteur patenté. Et le développement beaucoup moins stéréotypé, beaucoup plus original, qui suit sur le refus d'une interprétation théologique des faits narrés, est aussi de l'ordre de la dénégation. Attendu qu'à aucun moment dans le récit de voyage, Chevalier n'a manifesté d'intérêt pour quelque cabinet que ce soit, et que si le terme de curiosité est régulièrement employé, il ne s'applique qu'à des particularités architecturales et à des monuments, on peut se demander dans quelle mesure ce plagiat de guide touristique en fin de parcours, à la fin du processus de l'écriture, ne vient pas accompagner le début de l'entreprise de collection. Que la fin du processus d'écriture coïncide avec le début de cet autre processus, avec pour visée de se faire un nom dans le domaine des médailles et des petites antiquités, de telle sorte que le récit qu'il fera circuler le posera en curieux en le mettant en scène dans une visite antérieure de quelques années, dans ce qu'il appelle sa jeunesse, bref, contribuera bel et bien, malgré la dénégation de départ, à faire de lui quelqu'un dont le destin était de se faire connaître un jour comme le chevalier curieux, comme il se baptise lui-même, hein, selon la dénomination qu'il s'attribue à lui-même, faisant de la curiosité sa marque identitaire. Vous voyez comme ce petit passage de son récit de voyage est un texte bien intéressant parce qu'il nous permet de reconstituer des modalités de visite et de restitution d'une visite par l'auteur d'un guide touristique qui se contente sans doute de suivre dans les grandes lignes les préférences du propriétaire, parce qu'on peut approcher, en faisant une hypothèse, le rôle d'interguide comme médium dans la restitution de la visite par un touriste, ou bien encore, en construisant une autre hypothèse qui me semble encore plus plausible, son rôle dans l'invention d'une visite controuvée à des fins de construction d'image sociale de soi en personnage de curieux, à la fois amateur et savant, c'est-à-dire, pour reprendre le mot à la mode à l'époque, le mot qui circule à l'époque, de connoisseur. Merci.
Merci beaucoup, Pierre. Oui, je crois que ça valait la peine d'aller l'extirper des nuages d'opium de Sherlock Holmes, parce que vous l'avez reconnu, c'est pas Pierre Martin, c'est un faux nom, bien sûr. Voilà, bon, sérieusement, je voulais te poser une question. Mais tu as déjà répondu, est-ce que je viens de me demander en t'écoutant si le jeune chevalier, parce qu'il est jeune, même si l'âge, la perception de l'âge est relative à l'époque par rapport à notre perception, nous. Bon, mais je me demandais en t'écoutant si au fond, c'était pas délibéré qu'il avait pompé le texte pour se donner une compétence qu'en réalité, il n'avait pas. Bon, c'est ta conclusion, donc ça va, on sait pourquoi on est copains, c'est bon. Une dernière chose, deuxième question, je me dis, mais est-ce qu'on est sûr qu'il est allé ? Tu as répondu aussi. Bon, bah alors, je sais pourquoi on est très, très copains. Bon. Et dernière chose, sérieusement, juste là, parce que tu n'as pas eu le temps de le dire, ou c'était implicite pour toi, mais ça n'était pas pour tout le monde, le catalogue de Molinet, tu as rappelé qu'il est partiel. Oui. C'est non seulement parce que Molinet est mort, mais c'est aussi parce que Molinet dit clairement qu'il a tellement de choses, n'est-ce pas, qu'il ne va pas tout catalogué, qui va juste s'en tenir aux choses les plus admirables. Alors, j'y repensais, enfin, les plus curieuses, plus intéressantes. Donc, son catalogue est un choix, au fond. J'y repensais en t'écoutant, parce qu'au fond, ça va totalement dans le sens de ce que tu as montré après, à savoir que sans doute, Germain Brice a eu droit à une visite guidée, où on ne lui a montré que, au fond, ce qu'il y aurait dans le catalogue, à certains égards, c'est-à-dire ce qui vaut la peine. Au passage, ça signifie que du reste, on peut l'échanger, on peut le vendre, on peut, etc. Et, puisqu'il y a des, c'est pas ce qui vaut absolument la peine. Donc, en réalité, si tu tires le fil, tu l'as fait, je le reprends autrement. Au fond, Germain Brice dit ce que Molinet veut qu'on dise. Et il y a une autre hypothèque qui pèse, à mon avis, sur tout ça. C'est qu'au fond, Germain Brice, quand il raconte sa visite, recopiée par Chevalier, etc., il raconte certainement ce que de Molinet a bien voulu lui dire. Donc, c'est une visite très guidée, si je puis dire, fermement guidée. Il faut qu'on oublie, à mon sens, enfin là c'est un très bon exemple, l'idée que bon, là, il y a quelqu'un qui voyage et puis il raconte ce qu'il a vu. Eh bien, peut-être pas tout à fait, il raconte surtout ce qu'on a voulu lui faire dire. Voilà, et vous savez bien que quand on vous guide une visite, ça vous empêche de voir à certains égards. Je trouve que c'est vraiment passionnant, merci beaucoup, parce que ça nous amène à nous interroger véritablement sur la nature de documents, des textes qu'on lit. En les prenant pour argent comptant, quand on a un peu de bouteille et qu'on fait ce boulot-là, on voit bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Merci à toi.
Bon, bah, j'ai rien à répondre. Hein.
Non, t'as rien à répondre. C'était un remerciement.
Alors, un bon copain.
Voilà. Allez, une bonne question. Oh, bah, c'est malin, c'est une bonne ou deux questions, si vous voulez.
Hein. Ça prouve que ça se passe dans une bonne ambiance. Au contraire, on va le garder.
Tu as dit que Chevalier était un marchand.
Oui.
C'est ça. Et alors, le médaillon, au début, il y a une légende qui le qualifie de sacerdoce dei memoriae, ou je ne sais plus. Non, tu n'as pas vu
si. C'est un médaillon qui est dessiné dans son premier album Amicorum, parce que en 80, je crois que la première référence que je trouvais, c'est 90. En 90, sa collection est suffisamment constituée pour qu'il décide de la, d'abord de la décrire, hein, d'en faire une description, et puis de recueillir de ses visiteurs les plus prestigieux, évidemment, hein, pas du Vulgum Pecus, de recueillir des espèces d'attestations de visite, hein, dont il va pouvoir se prévaloir à la manière des albums Amicorum. Et là, c'est une de ces personnes, je ne me rappelle plus laquelle, qui passe par un dessinateur qui fait dessiner un médaillon. Alors, comme on rend hommage à Chevalier, eh bien, on dessine une médaille, puisqu'il est collectionneur de médailles et que lui-même fait des médailles. Hein, donc, la légende correspond beaucoup plus au type de légende qu'on peut trouver sur une véritable médaille qu'à un discours qui correspondrait à l'activité de Chevalier lui-même, je crois.
J'ai trouvé ton analyse tout à fait passionnante. Ça m'a rappelé des choses dont on avait parlé il y a quelques années et qui ne concernent pas les cabinets de curiosité, mais les récits de voyage sur le problème de la confiance qu'on peut avoir dans un récit. Alors, j'évoque ce récit de voyage de ce Silésien que j'ai évoqué. Un jour, après avoir travaillé longuement dessus, j'ai découvert qu'il avait recopié en Italie un manuel, un guide, le guide de Leandro Alberti, sans le dire, bien entendu, mais je l'ai trouvé par hasard, c'est-à-dire en constatant qu'il y avait des erreurs communes, etc. Alors, j'étais catastrophé, puis en même temps, c'est passionnant. Parce que la question qui se posait au début, mais c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure, ce que vous avez dit, c'est-à-dire savoir s'il a acheté le bouquin pendant, après, etc., s'il a composé au début, quand on est naïf, en plus, moi, je n'étais pas du tout spécialiste de cette période, je me disais, tiens, il va sur place, il décrit, il fait des citations de classiques sur place, il a des bouquins avec lui ou pas, ou dans sa mémoire. Non, c'est en arrivant. C'est en arrivant qu'il a recopié, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé sur place, parce qu'il y a des preuves aussi qu'il était sur place. Voilà. Évidemment, il faut manier tout ça avec des pincettes. Merci Jean.
Juste un mot pour remercier Myriam aussi. Je rappelle, c'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais des curieux du continent qui vont en Angleterre au début du 7e, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, on n'a pas beaucoup de récits. Donc c'est vraiment intéressant. Il y a plus d'anglais dans l'autre sens, si je peux dire. Bon. Et puis, pas oublier les évidences. C'est que, moi, ça m'a frappé, on parlera tout à l'heure tous les deux, mais le cabinet de la femme de Cromwell, je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans une perception française, c'est un sacré truc. Hein. Que tu parlais après de la duchesse, ou je ne sais plus laquelle, qui était une curiosité, n'oublions pas, chers amis, que la femme de Cromwell, c'est forcément déjà une hyper-curiosité. Parce que Cromwell est un monstre, qu'en plus il soit marié, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, pas oublier ça. Donc, la femme de Cromwell en soi, c'est un scoop. Oui, donc voilà, donc, dans son rire. C'est pas oublier la mise en perspective. Aller parler de la femme de Cromwell, du cabinet de la femme de Cromwell dans ces années-là en France, c'est un scoop. Quoi. C'est voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on s'arrête là, parce qu'on est un petit peu en retard, mais on a presque récupéré. Merci vraiment à tous. Pause déjeuner. On se retrouve donc, pour ceux qui en ont le temps et le souhait, directement à l'entrée du musée Sainte-Croix, de l'autre côté de la rue, vers 13h30, s'il vous plaît, 13h40, par là, pour qu'on puisse redémarrer nos travaux vers 14h30. Merci beaucoup.